Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Il nous demandait de tenir 4 à 6 semaines. C'était il y a 6 semaines. Il a ensuite évoqué la date du 15 mai pour un début de réouverture du pays. Emmanuel Macron, face à ses promesses successives et à l'impatience des restaurateurs comme de toute la population, quand la situation sanitaire est encore pour le moins incertaine.
Bonjour Jean-Rémy Bodo.
Bonjour à tous.
Ce soir à 18h à l'Élysée, il sera question de l'agenda de réouverture dont avait parlé le président.
Oui, ce soir, face au président, une dizaine de ministres. Chacun devra avoir préparé, selon son portefeuille, les protocoles nécessaires pour relancer les lieux publics. Dans la tête de tout le monde, la promesse d'Emmanuel Macron de rouvrir à la mi-mai les terrasses et certains lieux de culture. Mais au-delà des apéros et des musées, les détails de ce nouveau déconfinement sont très nombreux. Écoles, transports, commerce. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, insistera par exemple sur les conditions nécessaires pour lever le télétravail forcé. « Je fais confiance à l'administration pour nous pondre des protocoles efficaces », persifle un membre de cabinet. La vaccination fera-t-elle la différence? Les images des pubs à Londres ont marqué les esprits. « Si on rouvre, il faut que ce soit pour de bon », s'inquiète-t-on à Bercy. L'enjeu ce soir pour Emmanuel Macron est donc de montrer que l'exécutif est au travail, qu'il donne des perspectives encourageantes de sortie de crise, d'où cette mise en scène. Mais la réunion de ce soir sonne surtout comme un remake. Il y a très exactement un an, Emmanuel Macron promettait à la télévision le retour des jours heureux aux Français. 12 mois plus tard, Monsieur Déconfinement est à Matignon et on parle encore et toujours du virus.
Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1. Et on retient ce matin une proposition du tutorat pour accélérer la reprise quand elle sera vraiment là. Accompagné de jeunes recrues par des salariés en fin de carrière. C'est la suggestion du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin. Elle vient d'être reprise par le gouvernement. C'est désormais l'opération 100 000 mentors en 2021.
Le tutorat, ça existe depuis longtemps. C'est quelque chose qui avait été mis en place principalement dans les entreprises du BTP pour les gens qui allaient partir à la retraite et qui acceptaient d'accompagner des jeunes et des moins jeunes pour les intégrer dans les entreprises. Au moment de la reprise, on va avoir tout un tas de personnes qui sont parties vers d'autres horizons parce qu'ils n'ont pas voulu rester attendre. Le chômage technique, c'est bien, mais quand on reste à la maison, c'est pas marrant. On va avoir des gens qui étaient dans l'hôtellerie-restauration qui vont se retrouver dans le BTP, voire dans les services ou dans l'industrie. Et donc, il va falloir qu'ils soient efficaces rapidement parce que je suis convaincu que la reprise va être forte et à ce moment-là, il va y avoir des gens qui vont dire « Ok, je suis partant, je veux travailler, mais j'y connais rien. » Il n'y a pas de temps à perdre. Communiquer, expliquer aux entreprises l'intérêt et ouvrir les portes de toutes les entreprises aux gens qui diront « Moi, j'y connais rien, mais je veux bien apprendre. » Et c'est là qu'il faut les prendre en main.
Patrick Seguin au micro Europe 1 de Stéphane Place.
Alors, il y a un pays qui profite de ces terrasses depuis le début de la semaine, on vous l'a raconté, c'est le Royaume-Uni.
Oui, on a entendu cette joie et cette ambiance formidable dans les rues de Londres. Ambiance formidable peut-être, mais tout de même préoccupation pour le gouvernement et les scientifiques du pays. Anthony Harnden, chef adjoint du comité britannique sur la vaccination et l'immunisation, appelle ses compatriotes à la prudence.
Je suis inquiet des scènes qu'on a vues à Londres, de gens qui profitent de l'extérieur, des pubs, dans des endroits bondés, parce que bien sûr, ça va augmenter le taux d'infection. À chaque fois qu'on déconfine, ça augmente le taux d'infection. Et le danger dans ce cas-là est que le virus se transmet beaucoup plus. Et avec les nouveaux variants, comme le variant sud-africain, on n'a vraiment pas envie qu'ils deviennent majoritaires dans ce pays, parce que les vaccins marchent moins bien sur eux. On veut tous retrouver notre vie d'avant, on veut tous s'amuser à nouveau. Mais il faut qu'on soit prudent et qu'on y aille doucement, sinon ce sera retour à la case départ.
La prudence d'Anthony Harnden, joint par Johanna Chabas pour Europe 1. La vaccination, toujours sur un chemin tortueux. Le Danemark renonce définitivement à se servir d'AstraZeneca. Quant au vaccin de Johnson & Johnson, les États-Unis prolongent d'une semaine sa suspension. En France, il n'est pas encore injecté. On attend un avis de l'Agence européenne du médicament.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Entre la mauvaise image du vaccin AstraZeneca et la concurrence entre ceux de Pfizer et de Moderna, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de dire désormais on vaccine contre le Covid sans préciser de quel produit il s'agit ?
Alors oui, sur le papier, c'est tentant. Le problème, c'est que tous les vaccins ne sont pas interchangeables. Ils ont tous une très bonne efficacité, mais on l'a vu, il y a des restrictions d'âge pour certains, du stockage à basse température pour d'autres. La date du rappel n'est pas la même, voire il n'y a pas de rappel du tout. C'est le cas du vaccin Janssen. Donc, on est quand même obligé de faire une distinction entre eux. Ceci dit, il y a deux vaccins totalement jumeaux. Ce sont les vaccins à ARN messager Pfizer et Moderna. Ces deux-là agissent exactement de la même façon dans l'organisme et le ministère de la Santé rappelle que les patients n'ont aucune raison de faire la distinction entre les deux.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
8h06 sur Europe 1. Souvenez-vous, il y a deux ans, le 15 avril 2019.
La charpente est en proie aux flammes dévastées et cet immense panache de fumée qu'on a pu voir en arrivant ici jusqu'à Notre-Dame, depuis l'autre bout de Paris, la fumée est tellement épaisse qu'on a même des projections de morceaux de cendres qui tombent sur nous. Les pompiers dans toutes les peines du monde à arriver jusqu'au périmètre.
Cet archive d'il y a 2 ans, réentendre ça ce matin, encore aujourd'hui, hein, ça nous saisit. Théo Manval, reporter d'Europe 1, qui avait passé la soirée et la nuit à scruter les opérations des pompiers sur Notre-Dame de Paris. Où en sommes-nous du chantier? Le général Jean-Louis Georgelin est le représentant spécial d'Emmanuel Macron.
Nous arrivons à la fin de la phase de sécurisation qui a commencé dans la nuit du 15 au 16 avril 2019. Ça a été long parce que, notamment, il a fallu démonter ce fameux échafaudage, 40 000 pièces et 300 tonnes qu'il y avait autour de la flèche, pièce par pièce, très long. Il a fallu évacuer tous les vestiges de l'incendie. Il a fallu démonter l'orgue. Bref, tout ça a été compliqué et puis, au fur et à mesure où on le pouvait, il a fallu échafauder les transepts, puis le chœur, puis la nef. Il a fallu monter les cintres des échafaudages et actuellement les cintres des voûtes. C'est tout ça qui permet d'arriver sereinement mais solidement à la fin de la phase de sécurisation. Nous nous battons pour que cette réouverture ait bien lieu en 2024.
Le général Jean-Louis Georgelin avec Pierre Herbulot pour Europe 1. Emmanuel Macron qui lui aussi réitère ce matin sa promesse de réouverture en 5 ans de Notre-Dame de Paris. C'est une interview dans le journal Le Parisien. Le président qui établit lui-même la comparaison entre l'incendie et la pandémie. Le peuple français est extraordinairement résilient dans ces moments d'émotion et depuis le début de la crise, déclare Emmanuel Macron. Il sera sur le chantier de restauration aujourd'hui avec la maire de Paris et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, tout juste convalescente du Covid. La reconstruction économique, l'après-pandémie et le Fonds monétaire international, le FMI, qui appelle un coup de collier des pays européens, c'est le terme de son directeur Europe, Alfred Kammer, coup de collier budgétaire, il leur suggère plus d'aide publique cette année et l'an prochain pour surmonter la crise.
Son nom, Madoff, était devenu le synonyme du mot escroc, finalement. Bernard Madoff est mort hier en prison à l'âge de 82 ans.
Oui, il promettait des rendements faramineux et les payait grâce aux apports des nouveaux clients qui arrivaient dans son système. Il aura fallu la crise financière de 2008 pour que tout s'effondre. Emmanuel Dutheil, les victimes sont loin d'avoir tout récupéré.
Alors, Bernard Madoff a escroqué des grands noms comme Steven Spielberg, John Malkovich ou encore la fondation Elie Wiesel pour l'humanité. Des grands noms et beaucoup d'anonymes fascinés par les rendements élevés et surtout très réguliers qu'il promettait. Près de 40 000 épargnants éparpillés partout dans le monde ont lancé des procédures et environ 70% d'entre eux ont réussi à récupérer une bonne partie de leur mise. Ceux qui avaient fait de gros bénéfices ou de bonnes affaires avec Bernard Madoff ont en effet dû rembourser pour payer ensuite les pertes des autres. Mais les clients français ont été moins bien dédommagés, selon l'avocat Emmanuel Asmar, très impliqué dans ce dossier.
Les clients américains ont été mieux et plus rapidement indemnisés parce qu'elles sont clientes directes sur le territoire américain de la société de Bernard Madoff. C'était beaucoup plus simple d'établir leurs créances.
Les victimes françaises ont réussi à récupérer en moyenne entre 25 et 50% de leurs créances, mais les investigations ne sont toujours pas terminées et les victimes peuvent encore espérer recevoir des dédommagements.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
On en parlait dans ce journal dès lundi, ces systèmes de messagerie chiffrée utilisés par des trafiquants et qui sont tombés aux mains des enquêteurs. Ils peuvent lire des centaines de millions de messages.
Oui, ce qui pose tout de même des questions légales, notamment comme à cet avocat, maître Guillaume Martine. Il défend un homme suspecté de trafic de drogue et qui utilisait le système EncroChat.
Les enquêteurs ont présenté la messagerie EncroChat comme étant exclusivement utilisée pour du trafic de stupéfiants ou des activités illicites en tout genre. Sauf que, en réalité, on se rend compte que toutes les conversations qui ont été captées à cette occasion ne sont pas en lien avec des activités illicites. Donc on a, si vous voulez, ramassé très largement. On a capté très très largement et de manière totalement indiscriminée des dizaines et des dizaines de milliers de conversations entre des individus partout dans le monde et on a fait le tri ensuite. Je ne doute pas que la mesure de piratage de la messagerie EncroChat a permis d'arrêter un certain nombre d'activités délictuelles, certes. Mais on ne peut pas, au prétexte de vouloir lutter contre le crime et la délinquance, utiliser des méthodes qui en réalité ne sont pas prévues par la loi et donc de ce fait sont illégales.
Et une requête en nullité est étudiée aujourd'hui à Nancy. Maître Guillaume Martine répondait à Guillaume Biais pour Europe 1.
Ce jeudi, c'est la journée mondiale de l'art, ce qui peut sembler ironique au vu de la fermeture de tous les lieux de culture depuis des mois.
Oui, mais tout de même, innovation, énergie, imagination de la part des musées, des galeries et des centres d'art pour fidéliser leur public, les expos en ligne cartonnent. Diane Chenouda.
20 millions de connexions pour le Louvre en 2020 et son nouveau site démarre fort. avec 550 000 visites rien que pour son week-end de lancement fin mars. Il faut dire que n'importe qui peut gratuitement découvrir tous les tableaux du musée, sans compter les nombreux podcasts aussi pour les enfants. Le Centre Pompidou, lui, fait sensation avec son expérience Kandinsky. Plus de 500 000 connexions en un mois, le peintre associe un son à chaque couleur, la trompette pour le jaune, le violon pour le rouge. Paul Mouret, chef du service numérique du Centre Pompidou.
L'expérience Kandinsky, oui, cartonne, marche très très fort. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on arrive à attirer un public très nombreux qui vient uniquement pour le contenu numérique. On a pu aussi toucher des gens différents, plus jeunes, à l'international, des gens qui peut-être nous auraient pas identifiés, qui auraient pensé potentiellement que le Centre Pompidou était pas pour eux.
Autre expo en ligne qui marche, cette vidéo sur les baigneuses de Picasso au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Ce tableau de petit format est lié à la découverte de la plage de Biarritz.
Depuis la crise, le site du musée a attiré 70% de visiteurs de plus.
Et la culture, c'est aussi un événement populaire qui annonce son annulation pour la deuxième année consécutive. Pas de fête de Bayonne, annonce le maire Jean-René Etchegaray. Les gens ont besoin de sortir et on aurait assisté à des comportements irrationnels, dit-il. Voilà, vous n'irez pas aux fêtes, mais vous aurez la peña Bayona dans les oreilles jusqu'à la prochaine édition, quel que soit le calendrier.
C'est ce que j'allais vous dire, oui. Et pour ce qui est du calendrier du foot,
mardi 27 avril, PSG Manchester City, demi-finale, aller de la Ligue des Champions, ce sera évidemment sur Europe 1. Les Anglais se sont qualifiés hier soir aux dépens de Dortmund. L'autre demi-finale, ce sera Real Madrid, Chelsea.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.